Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Frères et sœurs bien-aimés, en levant les yeux vers le ciel, avec toute l'Église, nous découvrons la bienheureuse Vierge Marie. Elle est là, dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or, on la conduit toute parée vers le roi. Nous la contemplons dans le mystère de son Assomption, alors qu'elle entre au palais du roi. Saluons-la du haut du ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. C'est en présence de 36 cardinaux, de 622 évêques et prélats au milieu de centaines de milliers de fidèles que le vénérable pape Pie XII proclame solennellement le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Nous sommes place Saint-Pierre en 1950. Il s'agit donc du dernier dogme proclamé en date qui engage la foi de toute l'Église. Cependant, celui qui penserait à une nouveauté ferait fausse route. Si l'Église, par la voix infaillible du pontife romain, affirme l'Assomption de la Sainte Vierge, c'est qu'une telle définition appartient au dépôt de la foi. La nouveauté ne réside donc pas dans la foi des apôtres, qui est celle du peuple chrétien, mais dans la formulation de ce dogme, qui engage l'Église jusque dans la lettre. Ainsi, le pape déclare-t-il, Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. Qu'une telle donnée de foi ne soit pas une nouveauté, tenons-en pour preuve, dans notre chère Bigorre et ses quatre vallées, que sur les 541 paroisses la parcourant, 84 avaient déjà pour sainte patronne Notre-Dame dans le mystère de son Assomption. Ajoutons à cela les nombreuses représentations de nos églises, tableaux, rétables, bas-reliefs, donnant à voir aux fidèles bigourdans cet épisode de la vie de Notre-Dame. Si nombre de ces représentations datent de l'âge baroque, c'est qu'étant de France. Notre Bigorre honore alors la patronne principale de notre pays sous ce vocable, Notre-Dame de l'Assomption. En effet, c'est à notre roi Louis XIII que nous devons cette consécration de la France en date du 10 février 1638. Comprenons également que nous n'avons pas attendu 1950 depuis le XIIIe siècle et la promotion du chapelet pour méditer son quatrième mystère glorieux qu'est l'Assomption. La foi précède le dogme. De telle sorte résume le bienheureux cardinal Newman que les catholiques ne sont pas venus à croire cette doctrine parce qu'elle était définie, mais elle a été définie parce qu'ils y croyaient. C'est ainsi qu'une des plus anciennes attestations de la foi en l'Assomption est une homélie datant du début du 5e siècle. Mais cette mention est postérieure à la fête du 15 août qui, en Terre Sainte, remonte au 3e siècle. Cette fête du 15 août gagna alors de Terre Sainte l'ensemble du monde chrétien à partir de l'an 539, en commençant par l'Orient. C'est donc une fête ancienne, une fête vénérable qui nous voit réunis en cette église de Lannemezan. Contre toute attente, le vénérable pape Pie XII ne proclama pas ce dogme à l'occasion de la fête du 15 août, mais le 1er novembre 1950, jour de la Toussaint. Un tel décalage n'est pas anodin. Il indique que ce mystère est à situer dans la communion des saints. Prenons en bombigourdant l'exemple de sainte Bernadette. Nous savons par l'Église que l'âme de la sainte est au ciel, là où son corps repose, quant à lui, intact, dans la chapelle du couvent des sœurs de Nevers. Du haut du ciel, la petite sainte Bigourdane prie pour nous, certes, mais, comme tous les fidèles défunts, elle attend du dernier jour la résurrection de la chair, promise à son corps qui deviendra dès lors glorieux. C'est ce que l'apôtre saint Paul nous enseigne dans son épître lorsqu'il déclare « Le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui premier ressuscité, parmi ceux qui se sont endormis. De même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. Le Christ en premier, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. » En Nouvelle Ève, la Sainte Vierge fait exception. Elle suit de très près son Fils, le nouvel Adam. Pour reprendre l'ordre énoncé par saint Paul, la Vierge arrive au second rang, juste après la résurrection de son Fils, et cela, dès avant son retour ici-bas dans la gloire. Cette anticipation du Fils envers sa Sainte Mère, saint François de Sales la rattache au cinquième commandement, nous ordonnant d'honorer notamment notre Mère. C'est ainsi qu'il nous interroge. Quel est l'enfant qui ne ressusciterait sa bonne mère s'il le pouvait et la mit en paradis après qu'elle soit décédée? Ainsi, par un privilège spécial provenant de sa conception immaculée et donc de son Fils, la Sainte Vierge est-elle montée à la gloire du ciel, non pas seulement en âme, mais déjà dotée de son corps devenu glorieux. Elle suit donc son Fils, qui la voulait près de lui au ciel, mais en chair et en os. Ce mystère s'éclaire par cette déclaration de saint Alphonse de Ligori. Jésus n'a pas voulu que le corps de Marie se corrompît après sa mort, car c'eût été pour lui un objet de honte si sa chair virginale était tombée en pourriture. Cette chair dont lui-même avait pris la sienne. C'est pour approfondir cette vérité de foi que l'Église nous fait entendre dans l'Évangile la double bénédiction de sainte Élisabeth inspirée par l'Esprit-Saint. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. En effet, comme le précise le bienheureux pape Pie IX en proclamant sa conception immaculée, la Sainte Vierge n'est pas soumise à la malédiction faisant suite au péché originel. Au contraire, elle est celle que le Créateur, en punissant le serpent, annonçait « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, mais celle-ci te meurtrira la tête ». C'est cette victoire qu'anticipe Judith dans l'Ancien Testament, tranchant la tête d'Holoferne, le général assyrien. Judith, dont le prénom signifie la juive, anticipe la femme, la fille de Sion, qui, de la descendance d'Ève, met à mal l'ennemi. Elle est alors acclamée par le peuple libéré du joug assyrien. Tu es la gloire de Jérusalem, tu es la joie d'Israël, tu es l'honneur de notre peuple. Cette acclamation est reprise par l'Église qui l'adresse à la Sainte Vierge qui a mis à mal le mal. C'est cette victoire que contemple saint Jean dans l'Apocalypse lorsqu'il nous rapporte « Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Oui, il fut rejeté le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Ainsi, la Sainte Vierge répond-elle à la bénédiction de Sainte Élisabeth en chantant dans son Magnificat « Toutes les générations me diront bienheureuse ». Cette joie qui habite Notre-Dame, lui faisant entonner le Magnificat, est également la nôtre en ce jour. À travers son Assomption glorieuse, nous entrevoyons en filigrane la résurrection promise à notre chair que ce mystère anticipe pour elle. Cette joie est celle de notre baptême qui, en nous incorporant au Christ, nous conduit de la mort à la vie éternelle. La Sainte Vierge nous y attend au ciel, mais de pied ferme. Supplions-la de nous y conduire, elle qui est la cause de notre joie. Prions-la de sauver notre France, la fille aînée de l'Église, en raison de son baptême. Notre-Dame de l'Assomption, reine de tous les saints, ô Marie conçue sans péché, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.